milliers de personnes. Alors, pour le déroulement, simplement, les deux, par la suite encore, les journalistes donc, pourront poser des questions aux groupes qui sont ici, les gens vont pouvoir répondre aux questions, et enfin, on pourra avoir une période de questions en anglais aussi, au terme de l'échange. Je vous informe aussi que dans la salle, on a invité des citoyens, des citoyennes qui sont bilingues, qui peuvent répondre en français et en anglais aussi aux questions en tant que citoyen à titre personnel. Alors, pour commencer, je vais laisser la parole à Michel Sirois, puis ensuite à Claude Kamal-Cotissi. Alors, Michel.
Bonjour. Le projet de loi 21 est une étape majeure dans la laïcisation du Québec. En effet, depuis la Révolution tranquille, la laïcité est au cœur de la modernisation de l'État. Cependant, la laïcité n'avait pas encore été formalisée dans une loi ni enchâssée dans la Charte des droits et libertés de la personne. Il y a quatre principes qui sont énoncés dans le projet de loi et nous les appuyons. Premier principe, la séparation de l'État et des religions. Lors de la création de la commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles, communément appelée commission Bouchard-Taylor, le 8 février 2007, M. Jean Charest, alors Premier ministre du Québec, a fait une déclaration officielle quant aux valeurs qui sont prioritaires pour la société québécoise. Et je cite M. Charest. L'égalité entre les femmes et les hommes, la primauté du français et la séparation entre l'État et la religion constituent des valeurs fondamentales. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucun accommodement. Elles ne peuvent être subordonnées à aucun autre principe. Alors, le premier ministre Jean Charest ne faisait alors que rappeler ce qui était considéré depuis le rapport Bélanger-Campeau en 1991 comme les valeurs fondatrices du Québec moderne. On retrouve ainsi dans ces valeurs fondatrices la séparation entre l'État et la religion, ce qui constitue le principe premier affirmé par le projet de loi 21. On peut constater que la laïcité est un projet de la société québécoise et non pas un projet de loi partisan du gouvernement en place. Il s'agit en fait d'un projet qui transcende les partis politiques au pouvoir depuis plus de 30 ans. Ajoutons que ce premier principe du projet de loi, soit la séparation du religieux et de l'État, est encore plus essentiel dans un contexte de retour du religieux dans les institutions publiques. Deuxième principe qui est affirmé dans la loi, c'est la neutralité religieuse de l'État. Le projet de loi précise que cette neutralité religieuse doit être de fait, mais aussi une neutralité d'apparence. En fait, cela se vit tous les jours, actuellement, pour ce qui est du devoir de réserve politique, sur l'interdiction d'afficher ses préférences politiques. Il s'agit de l'article 10 de la loi de la fonction publique. Dans les sociétés plurireligieuses, il est devenu très important d'élargir ce devoir de réserve en interdisant d'afficher également ses préférences religieuses. La neutralité religieuse implique donc de mettre des lois démocratiques au-dessus des dictats religieux. Troisième principe, l'égalité entre tous les citoyens et citoyennes. En premier lieu, notons que l'on retrouve dans ce projet de loi l'importance accordée à l'égalité de droit entre les femmes et les hommes. Il s'agit d'une valeur fondamentale qui assure les mêmes conditions d'épanouissement pour les deux moitiés de la population. Cette égalité de droit a été acquise à la suite de longues luttes tout au long de l'histoire du Québec. Nous sommes heureux et heureuse que cette valeur d'égalité entre les sexes ait été prise en compte dans le projet de loi 21. L'État laïque est aussi une source de justice sociale, puisqu'il s'appuie sur l'égalité de tous les citoyens qui peuvent jouir des mêmes droits et assument les mêmes responsabilités. L'État laïque n'accorde aucun privilège à quelque conviction spirituelle que ce soit. Ce ne sont pas les dictats religieux, mais les droits humains universels qui fondent la justice sociale, ce qui assure que tous les citoyens, qu'ils soient de sexe féminin ou masculin, croyants ou non, homosexuels ou hétérosexuels, blancs, noirs, métis ou autres, qu'ils soient de souche ou nouvellement arrivés, tous les citoyens ont droit au même accès aux services gouvernementaux, au même traitement devant les tribunaux et à l'exercice sans entrave des mêmes libertés fondamentales. En résumé, Tous ont droit à leurs différences, mais par-dessus tout, ils peuvent bénéficier de la même égalité citoyenne. Quatrième et dernier principe, la liberté de conscience et la liberté de religion. Le Rassemblement pour la laïcité soutient la liberté religieuse. Conformément à l'article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne. Mais ce droit fondamental implique aussi un devoir, celui de respecter les droits des autres, notamment le droit à la liberté de conscience des enfants et de leurs parents. En 1999, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse publiait un rapport de recherche sur les signes religieux. On y notait que le crucifix était attentatoire à la liberté de conscience des enfants qui constituent une clientèle captive et vulnérable. Que dire des signes religieux portés par des professeurs qui exercent une autorité qui constitue des modèles, en plus, donc des modèles pour les enfants. D'autant plus qu'une relation affective lie les enfants à leurs professeurs, ce qui n'était pas le cas avec le crucifix. La liberté religieuse des employés de l'État doit donc s'exercer dans le respect de la liberté de conscience et la liberté d'expression de l'ensemble des citoyens, puisque ce sont elles aussi des libertés reconnues par le même article, l'article 3 de la Charte. La question fondamentale qu'il faut se poser, c'est que faire quand des droits s'opposent? Pour nous, la réponse est simple. Il faut établir un territoire neutre où les citoyens vont se sentir respectés, quelles que soient leurs croyances, quelles que soient les croyances des employés de l'État. Un terrain neutre où les citoyens de toutes origines vont pouvoir interagir de façon pacifique. Ce dont nous parle le projet de loi 21, c'est de protéger la liberté de conscience de tous les citoyens et non pas seulement la liberté de conscience des employés ou la liberté religieuse. Les libertés de croire ou de ne pas croire, libertés religieuses, vont être mieux protégées par la laïcité de l'État. Pour conclure, rappelons que dans les années 60 et 70, il y a eu au Québec un autre enjeu qui a donné lieu à d'intenses affrontements, tout comme la laïcité maintenant. La question linguistique divisait alors les citoyens, les quartiers, les familles. La loi 101, votée en 1977, a contribué énormément à apaiser les conflits linguistiques. Comme société, nous avons fait du français la langue commune et c'est fièrement aujourd'hui que nous parlons de ces enfants de la loi 101. Dans quelques années, ce sera aussi une fierté de parler des enfants de la loi 21, des enfants à qui le Québec aura offert enfin une école laïque neutre, ouverte à toutes et à tous, sans écart à leur appartenance religieuse. Merci.
Super.
Merci, Michel. Mon nom est Claude Kamal-Cotsi et je suis co-coordonnateur pour le Rassemblement pour la laïcité. Et c'est avec émotion et fierté que nous partageons avec vous ce moment historique qui amorce l'inscription de la laïcité dans nos droits et dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. C'est sans surprise que je vous annonce que le Rassemblement de la laïcité est favorable, pour l'essentiel, au projet de loi 21 déposé par le gouvernement du Québec. Ce projet est accueilli avec espoir et salué comme une percée historique et un aboutissement après plus de 10 ans de tergiversation dans ce dossier. Pour la première fois, en effet, nous verrons inscrite dans la loi une définition claire de ce qu'est la laïcité de l'État, et nous nous réjouissons aussi de l'inclusion du principe de laïcité dans la Charte québécoise des droits et libertés, afin d'y inscrire que les libertés et les droits fondamentaux doivent s'exercer dans le respect de la laïcité de l'État. De ce fait, la laïcité est inscrite comme un élément fondamental de l'État, comme un principe structurel qui servirait à interpréter les libertés et les droits individuels et auxquels l'État et les citoyens et citoyennes seraient assujettis. En outre, Le Rassemblement appuie totalement les quatre principes sur lesquels est basée la laïcité de l'État et qui sont définis à l'article 2 du projet de loi, comme le mentionnait Michel, à savoir la séparation de l'État et des religions, la neutralité religieuse de l'État, l'égalité de tous les citoyens et citoyennes, et enfin, la liberté de conscience et la liberté de religion. Ce projet de loi affirme aussi que l'État du Québec est laïque et que cette laïcité exige que les institutions parlementaires, gouvernementales et judiciaires respectent les énoncés et les principes de la laïcité en fait et en apparence. Or, la laïcité de l'État n'est pas désincarnée. Elle s'incarne par son personnel, comme l'a reconnu elle-même d'ailleurs la Cour suprême du Canada. Et pour que l'État soit neutre et ne favorise aucune religion, en fait en apparence, son personnel doit aussi être neutre, que ce soit dans ses décisions ou dans son apparence. De là, la logique de l'interdiction d'affichage de signes religieux aux employés de l'État qui sont au service de l'ensemble des citoyens. C'est d'ailleurs la même logique que celle du devoir de réserve et de neutralité qui est exigée de tous les fonctionnaires de l'État pour ce qui est de leurs opinions politiques qu'ils ne peuvent afficher sur leur lieu de travail. Le Rassemblement salue aussi l'intention du gouvernement de recourir à la clause dérogatoire et sa détermination à proposer un modèle de gestion du religieux qui soit propre au Québec, à son histoire et à son évolution. Lorsqu'il est question d'établir des équilibres entre les droits individuels et les droits collectifs, dans une société en constante évolution, le rôle du législateur devrait primer. Par cette invocation de la clause dérogatoire, le gouvernement affirme que, lorsqu'il s'agit de choix collectifs de société, le politique a préséance sur le judiciaire. D'autre part, on ne saurait trop insister sur le fait que cette interdiction porte seulement sur l'affichage de signes religieux sur le lieu de travail, pendant les heures de travail, d'un sous-ensemble des employés de l'État qui desservent l'ensemble de la population. On ne touche pas là à un droit fondamental. Le gouvernement a choisi d'imposer cette interdiction d'affichage de signes religieux seulement aux personnes en situation d'autorité coercitive et aux enseignants du primaire et du secondaire du réseau public. Nous comprenons que le gouvernement a choisi la voie du compromis en décidant d'avancer sur la piste et sur la voie de la laïcité et en limitant l'interdiction d'affichage à ces catégories d'emplois. L'inclusion des enseignants reconnaît que l'école est le lieu par excellence de l'éducation à la citoyenneté. Nos enfants, qui sont à l'âge vulnérable de la construction de leurs croyances, de leurs jugements, de leur identité et de leurs convictions, ne doivent pas être exposés à des signes religieux portés en permanence par leur enseignant, qui est un modèle et une figure d'autorité. Il y va de la liberté de conscience des enfants. Tous les membres du Rassemblement appuient la décision d'inclure les écoles dans le projet de loi. Le savoir est, par essence, laïque, et les élèves doivent être en mesure de recevoir ces connaissances sans interférence religieuse ou politique. Le devoir de réserve des enseignantes et des enseignants est intégré depuis longtemps, comme à l'expression de la conviction politique. Le projet de loi 21 ajoute les convictions religieuses à cette obligation de réserve pour les enseignantes et les enseignants, et ce, par respect de la liberté de conscience des élèves et de leurs parents. Les groupes membres du Rassemblement pour la laïcité souhaitent tous et insistent pour que cette obligation de neutralité soit étendue à tout le personnel de l'école, au personnel des services de garde et aux services spécialisés, et ce, dans un souci de cohérence. Cette obligation devrait être aussi étendue aux CPE et aux écoles privées subventionnées. Enfin, et compte tenu de la volonté du gouvernement d'autoriser certains professeurs à afficher leur appartenance religieuse, le Rassemblement croit qu'il est impératif, au nom de la liberté de conscience des élèves et des parents, de prévoir un mécanisme par lequel les parents et leurs enfants pourront recevoir, s'ils le veulent, des services qui respectent la neutralité de l'État. C'est un corollaire de la loi, mais il faut que ce soit le droit des parents et de leurs enfants à un enseignement neutre qui soit explicité dans la loi. Il faudra aussi qu'éventuellement l'État soit laïque dans toutes ses composantes et que la liberté de conscience de tous les citoyens dans leur rapport à l'État soit assujettie à cette obligation de laïcité et de neutralité. Nous comprenons cependant le souci du gouvernement d'y aller avec précaution, surtout dans le contexte nord-américain et multiculturaliste qui comprend mal les intentions de la laïcité et qui lui a toujours préféré l'affichage multiconfessionnel en guise de neutralité. Selon nous, la laïcité est davantage porteuse d'harmonie et de cohésion sociale dans les sociétés multiconfessionnelles et pluralistes qui constituent la réalité de nos jours. Alors, en conclusion, nous, du Rassemblement pour la laïcité, nous disons oui au projet de loi 21 sur la laïcité, qui constitue un minimum et qui est aussi largement appuyé par la population. Et nous allons appuyer le gouvernement dans sa démarche, même si nous aurions souhaité qu'il aille un peu plus loin. Et nous allons insister pour que les améliorations que nous proposons soient prises en compte pour assurer une plus grande cohérence et une meilleure harmonie. Parce que la laïcité, c'est la meilleure garantie de cohésion sociale, d'harmonie et du mieux vivre ensemble. Alors nous disons vivement la laïcité. Merci.
Je vais demander à M. Ferry Tchéki de l'Association québécoise des Nord-Africains pour la laïcité de venir prononcer quelques mots pour l'association.
Bonjour tout le monde. Elle m'a dit quelques mots. Je pensais que je pouvais lire tout un texte, mais bon, ça se réduira à une seule page avec trois idées principales. ACNA est favorable pour le PL 21 portant laïcité de l'État. Parce que même s'il recèle quelques insuffisances, le projet de loi propose un contenu rassembleur. Il offre un minimum de garantie pour aller dans le sens d'une laïcité qui permet à l'État québécois de poursuivre l'œuvre de sécularisation de la société, œuvre entamée depuis presque un demi-siècle. Nous sommes en phase avec les principes contenus dans ce projet de loi, malgré le fait qu'il ne couvre pas tous les aspects souhaités, il n'en constitue pas moins un minimum qui garantit, nous le répétons souvent, le bien vivre ensemble et en bonne intelligence. Je ne reviendrai pas sur les quatre principes qui ont été déjà cités, mais juste pour mémoire, qu'on le veuille ou non, ce qui dérange le plus les citoyens du Québec, c'est que depuis une dizaine d'années, les forces d'opposition, en fait pour nous ce sont des forces de l'inertie, empêchent la société tout entière d'évoluer dans la cohésion et l'harmonie, alors que le gouvernement actuel tente par ce projet de loi de tout réorganiser. Pourquoi ces forces de l'opposition veulent empêcher tout un chacun de vivre sereinement en harmonie avec les autres et loin des dogmes qui paralysent? Parce qu'en fait, ces groupes qui sont minoritaires et extrémistes font de la dissidence leur travail de tous les jours. Ils sont appuyés de quelques personnes qui, de leur tour d'ivoire, voudraient influer sur les points de la gouvernance nationale, mettant en place sur la table des idées pour nous régressive et intolérante. Donc, pour nous, en tant qu'ACNAD, nous appuyons le projet de loi 21. Merci.
Je vais demander à Étienne Alexis Boucher du Mouvement national des Québécoises et des Québécois de venir prendre la parole. Quelques mots aussi.
Merci beaucoup, Mme Guilbeault. Évidemment, ce n'est pas un scoop, hein, le Mouvement national des Québécoises et des Québécois, s'il est aujourd'hui présent, aujourd'hui avec le Rassemblement pour la laïcité du Québec, c'est que nous sommes favorables à l'adoption d'un projet de loi qui n'est pas parfait, bien évidemment, mais qui vient régler tout un ensemble de problématiques. Il faut savoir que, à nos yeux, et je tiens à féliciter le gouvernement de présenter ce projet de loi-là, qui n'est pas qu'un projet de loi administratif. Non, ce projet de loi-là est d'abord et avant tout un véritable geste d'affirmation nationale. Et C'est d'ailleurs ce pourquoi, alors que le Québec est contraint à un cadre juridique et politique qui lui a été imposé sans son accord, que le gouvernement est forcé d'utiliser la clause dérogatoire ou communément appelée clause non-obstant. Ma participation va se limiter à ceci. Souvent, on entend dans les médias, vous savez, la clause non-obstant, c'est véritablement une bombe nucléaire, quoi. Or, rien n'est plus faux. En effet, grâce à une étude publiée par l'Institut de recherche sur le Québec en 2016, il a été démontré que son utilisation ne relève absolument pas du cas d'exception. Au contraire, cette clause est apparue dans pas moins de 106 alinéas, inclus dans près de 41 lois de 1975 à aujourd'hui. On n'est donc pas devant des cas d'exception. De même, l'insertion de cette clause permet de nombreux avantages, tels que le fait de s'assurer que le principe de démocratie représentative puisse s'exprimer sans contrainte par l'entremise de la souveraineté du Parlement. À la fin de la journée, c'est qui doit décider? Ce ne sont pas les juges, ce sont les élus du peuple. Et enfin, cet outil législatif a démontré sa très grande efficacité lorsque le législateur a la volonté de protéger une collectivité fragile au plan culturel, telle que la nation québécoise au sein de ce grand ensemble confédéral qu'est le Canada, face à l'effet uniformisateur, puisque c'est ce dont on parle, de la Charte canadienne des droits et libertés. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une belle journée.
Madame Lucie Jobin, présidente du Mouvement laïque québécois, à venir prendre la parole.
Bonjour tout le monde. Alors, le Mouvement laïque québécois, c'est le seul organisme de la société civile spécifiquement fondé sur la revendication de la laïcité de l'État. C'est un objectif démocratique pour lequel on milite depuis près de 40 ans. Nous nous appuyons sur le projet, sur le jugement de la Cour suprême rendu en avril 2015 dans l'affaire Saguenay pour saluer la mise en débat par le gouvernement actuel du projet de loi 21 sur la laïcité, incluant l'interdiction du port des signes religieux pour certains employés de l'État. La laïcité étant un principe fondamental de tout État moderne, elle doit s'appliquer sur l'ensemble du territoire. Elle est plus particulièrement nécessaire dans les milieux culturellement, religieusement et ethniquement pluralistes, afin que la visibilité du caractère laïque de l'État soit bien évidente. Mais la neutralité de fait n'élimine pas la nécessité de la neutralité apparente. La neutralité apparente, c'est celle qui est visible et qui inclut donc les lieux et les personnes qui y travaillent. Voici ce qu'en dit la Cour suprême dans le jugement rendu obtenu par le Mouvement laïque québécois dans la cause des prières municipales à Saguenay. En n'exprimant aucune préférence, l'État s'assure de préserver un espace public, neutre et sans discrimination à l'intérieur duquel tous bénéficient également d'une véritable liberté de croire ou de ne pas croire. En ce sens que tous sont également valorisés. Le juge Gascon précise qu'un espace public neutre ne signifie pas l'homogénéisation des acteurs privés qui s'y trouvent. La neutralité est celle des institutions de l'État et non celle des individus. Un espace public neutre, libre de contraintes, de pression et de jugement de la part des pouvoirs publics en matière de spiritualité, tend au contraire à protéger la liberté et la dignité de chacun. L'espace public dont il est question, c'est le lieu où sont rendus les services publics et ceux qui y travaillent en font partie. Lorsque la Cour suprême affirme que la neutralité est celle des institutions et non des individus, ça signifie que ceux qui y travaillent n'ont pas changé leur conviction pour occuper un poste. Mais à la lumière de l'ensemble du jugement, il est manifeste que cela ne les dispense pas de respecter l'obligation de neutralité apparente. Le projet de loi 21 nous apparaît donc comme un pas important dans la bonne direction, mais ne comble pas toutes nos attentes à l'égard d'un État véritablement laïque. Merci.
les gens du groupe la laïcité capitale nationale qui ne pouvaient se déplacer de Québec aujourd'hui m'ont demandé de lire cette déclaration. À la suite du dépôt du projet de loi numéro 21 intitulé « Loi sur la laïcité de l'État », laïcité capitale nationale adresse ses félicitations au gouvernement de la CAQ pour cette initiative attendue depuis longtemps par une grande majorité de la population québécoise. La laïcité est un idéal humaniste qui repose sur l'égalité de droit entre les individus, la liberté de conscience de chacun et la promotion de valeurs universelles. Les croyances religieuses, même si elles relèvent de la liberté de chacun, n'ont pas à interférer dans l'espace civique, entendu au sens des institutions de l'État. La décision d'inclure le concept de laïcité dans la Charte québécoise des droits et libertés renforcera cette loi, qui a le mérite d'affirmer enfin que l'État québécois est laïque, dissipant ainsi toute l'ambiguïté vécue dans les dernières années. Nous saluons notamment la décision de la CAQ d'interdire dans son projet de loi le port de signes religieux par des personnes et agents de l'État exerçant un pouvoir de coercition, de même que chez les enseignants des niveaux primaires et secondaires. Ces personnes exercent une grande autorité morale auprès des élèves dont la formation et l'éducation à titre de citoyen les préparent à vivre dans une société libre et émancipée. Nous nous réjouissons aussi de voir que le crucifix de l'Assemblée nationale, objet patrimonial, sera retiré de son lieu actuel pour être mis dans un endroit plus approprié. Ce geste important que vient de poser le gouvernement du Québec nous apparaît comme une étape majeure dans le processus de laïcisation de la société québécoise et de ses institutions publiques. Bien entendu, ce processus pourrait être poussé plus loin, par exemple en étant dans l'interdiction du port des signes religieux dans les centres de la petite enfance et structures apparentées. Il reste encore la grande interrogation du cours ECR, dont les orientations éminemment discutables vont à l'encontre de l'esprit de la laïcité. Ce cours devrait être entièrement revu ou éliminé. Mais encore une fois, saluons cette initiative du gouvernement de la CAQ qui amène la société québécoise par la promotion de la liberté de conscience de ses citoyens, l'égalité de droit entre les individus et le partage de valeurs universelles à caractère humaniste, à franchir un pas décisif dans le parcours de son histoire comme société d'expression française fonctionnant selon des principes démocratiques et partageant des valeurs citoyennes. Maintenant, je vais inviter M. David Rand, des Libres Penseurs athées, à venir prendre la parole.
Oui, bonjour. Nous, Libres Penseurs athées, appuyons le projet de loi 21, même s'il est très incomplet. Nous aurions souhaité que l'interdiction du port de signes religieux s'applique à toute la fonction publique, sans exception, pas seulement aux fonctionnaires en position d'autorité, mais c'est tout de même une belle avancée. Un aspect clé de ce projet de loi est sa définition assez compréhensible de la laïcité ainsi que la déclaration de laïcité d'État qu'il inscrirait dans la Charte des droits et libertés de la personne. Cette excellente disposition permettra de parfaire la laïcisation à l'avenir en comblant les lacunes de l'actuel projet de loi. Vu l'importance cruciale de cette définition de la laïcité, nous voudrions apporter une amélioration à son quatrième principe, soit la liberté de conscience et la liberté de religion. Cet énoncé devrait inclure aussi la liberté de s'affranchir de la religion ainsi que la liberté d'apostasie, car ces deux dernières sont aussi pertinentes que la liberté de religion, et même davantage, étant donné l'extrême persécution des apostats qui se fait dans plusieurs pays. En conclusion, nous considérons que le Québec se positionne à l'avant-garde des pays d'Amérique en proposant cette importante législation, et nous incitons le gouvernement à poursuivre ce but avec détermination. Merci.
M. Marc Laviolette, qui représente les syndicalistes et progressistes pour un Québec libre, le SPQ libre. Merci.
Bonjour tout le monde. D'abord, je tiens à souligner que le SPQ libre appuie toutes les positions qui ont été exposées jusqu'ici devant vous. Mais moi, je voudrais aborder la question de la laïcité sur un angle que je qualifie du gros bon sens. À partir de demain, il y aura une commission parlementaire, il va y avoir deux points de vue, fondamentalement, deux points de vue qui vont s'affronter. Bien entendu, ceux qui sont pour la laïcité sur le fond et en apparence, dont nous représentons ce courant-là, et ceux qui se disent pour la laïcité, mais qui sont contre toute interdiction de signes religieux. En d'autres mots, ils ne veulent pas que ça paraisse, la laïcité, parce que c'est ça. C'est ça, fondamentalement. Et cette position-là ne tient pas la route. Imaginez-vous, si je suis professeur et j'ai droit à ma liberté de conscience, le monde a droit à leur liberté de religion, si je me présente devant ma classe de première année avec un T-shirt « Dieu n'existe pas », j'ai le droit, selon cette position-là, parce que on ne doit interdire aucun signe, ça ne tient pas en route. Ça. Si on veut parler de laïcité, il faut absolument que ça soit sur le fond et aussi en apparence. C'est comme la justice. La justice doit être sur le fond et en apparence. Fait que c'est ce que la position du SPQ libre. Et j'ai bien hâte de suivre ça à TV, comme on dit. Parce que ceux qui tiennent la position, qui sont pour la laïcité, mais qui ne veulent pas que ça paraisse, c'est illogique. Merci.
Avant de laisser la parole à Mme Nadine Mabrouk, je vais dire quelques mots de l'organisme que je représente, PDF Québec. Alors, pour PDF Québec, le droit à l'égalité des femmes ne peut être assuré sans une laïcité formellement reconnue. On a vu trop souvent ce droit bafoué par nos institutions et même nos tribunaux au nom de la religion. Tant et aussi longtemps que des règles religieuses peuvent s'imposer dans l'espace civique, le droit à l'égalité des femmes est menacé. La laïcité n'est certes pas l'unique condition pour garantir le droit à l'égalité des femmes, mais elle est essentielle. Alors, Mme Elmabrouk, qui a été invitée à titre personnel à la commission parlementaire, mais elle est membre aussi de l'Association québécoise des Nord-Africains pour la laïcité et de PDF Québec. Alors, Mme Elmabrouk va clôturer.
Bonjour tout le monde. Oui, alors, donc, on est invité à présenter un mémoire en commission parlementaire. Donc, Leïla Ben Salem, qui est ici, et moi, donc, on sera entendu mercredi en commission parlementaire, et nous présenterons notre mémoire sur le projet de loi 21. Donc, dans ce mémoire, nous exposons notre vision, évidemment, en faveur de la laïcité et d'une réelle neutralité, comme il vient d'être dit, de fait et d'apparence des employés de l'État. Et puis, cette position, eh bien, c'est celle qui est partagée par une grande partie des citoyennes et des citoyens québécois originaires du Maghreb et puis originaires d'autres pays à dominante musulmane, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Voilà. Et donc, vous en avez d'ailleurs ici plusieurs. Alors, on entend souvent que la protection de l'État face à l'ingérence religieuse ne serait plus nécessaire maintenant que le Québec s'est libéré de l'emprise de l'Église catholique. Mais ça, c'est ignorer les pressions religieuses qui continuent à s'exercer sur beaucoup de femmes et sur des enfants de diverses communautés ethnoculturelles du Québec, dont les communautés musulmanes. Alors il est d'autant plus important dans ces conditions d'assurer à tous les enfants une école qui soit exempte de pressions religieuses afin de leur permettre de s'épanouir en toute liberté et de développer leur autonomie de jugement pour que la liberté soit, pour que la liberté de religion soit une réelle liberté de religion, la liberté de conscience ou la liberté d'apostasie, comme vient d'être dit. Alors la priorité, en tout cas, ça doit être les enfants. Le gouvernement l'a d'ailleurs dit clairement, et on appuie cette position, la priorité, ça doit être l'éducation, l'épanouissement des enfants. Voilà. Alors, on est en parfait accord avec l'esprit de la loi, et puis nous soutenons sans réserve la définition de la laïcité énoncée dans le projet de loi, qui est basée, comme il vient d'être dit, sur les quatre principes fondamentaux que sont la séparation de l'État et des religions, la neutralité religieuse de l'État, l'égalité de tous les citoyens et citoyennes, et la liberté de conscience et de religion. Bon, mais cependant, on considère que les exigences ensuite énoncées dans le projet de loi afin de faire respecter la laïcité sont insuffisantes, notamment en ce qui concerne l'école. Et nous, on va pas mal parler de l'école. Alors, nous recommandons notamment d'étendre l'interdiction des signes religieux à tous les employés de l'école, incluant évidemment les enseignants, les enseignantes, le personnel de direction, le personnel de soutien, le personnel administratif, et puis les éducatrices et éducateurs en service de garde. Voilà, alors pour conclure, eh bien, on pense que ce projet de loi est un projet rassembleur qui rencontre l'adhésion d'une majorité de Québécoises et de Québécois de toute origine, et que, bonifié par certaines recommandations qui ont été faites ici, il peut devenir une loi de progrès social qui fera du Québec un modèle en Amérique du Nord en matière de laïcité.
période de questions. Ça serait, je vais prendre les questions et vous pouvez identifier, par exemple, si vous voulez une réponse d'un groupe précis ou d'une personne en particulier. Et on va, Lynn a un micro. En tout cas, mais bref, là, on entend bien, mais c'est pour les journalistes surtout. Alors, donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur. Bonjour, vous êtes de quel? Excusez, on ne vous connaît pas, on n'est pas des familles.
Non, c'est quand même Mathieu Bellumeur de TVA. Petite question très simple en commençant. Vous parlez de 8 groupes là, sur vos... aux images communiquées par de 7 associations, 7 ou 8, vous êtes combien dans votre dedans?
Ben,
vous représentez combien de groupes?
Ici, il y a 7 groupes, il y a plus de rassemblements. Bon, il y avait le groupe qui devait venir, une représentante d'un comité laïcité de Québec solidaire qui devait venir, mais qui s'est désisté. Alors, donc, on est 7 groupes plus le rassemblement.
7 groupes. Est-ce qu'on vous explique pourquoi cette personne-là de regroupement de Québec solidaire s'est désistée?
Bien, donc, la participation a été contestée. Alors, écoutez, il faudrait voir plus avec Québec solidaire, mais disons que pour éviter de faire du brouhaha inutile, donc, elles ont préféré se désister.
OK. Question peut-être pour Mme Sirois. Dans votre allocution, je vais retrouver mes notes. Vous avez dit, je ne vous cite pas au mot, là, mais que... ce projet de loi-là était nécessaire dans un contexte de retour de la religion dans les institutions publiques. Vous faites référence à quoi?
OK. Eh bien, il suffit d'aller dans une école, voir. Il suffit également de voir la grande quantité de demandes de congés religieux dans la CSDM, entre autres, a référé que dans une année, il y avait eu 500 demandes, puis ça fait... il y a quelques années. Donc, il y a des demandes religieuses qui n'étaient pas là avant et qui sont là. Il y a aussi de plus en plus de signes religieux qui apparaissent, notamment dans les garderies, dans les écoles. Alors, donc, ce retour du religieux, je crois, il vient aussi du fait que les gouvernements n'ont pas toujours eu le courage d'agir ou ils n'avaient pas la liberté du fait qu'ils étaient minoritaires. Mais quand ils étaient majoritaires, certains gouvernements n'ont pas mis en application, exemple, la déclaration de M. Jean Charest en 2008. S'il l'avait fait, prendre le courage d'appliquer ce qu'il venait de déclarer, on ne serait pas là en train de se déchirer sur la question des signes religieux.
Je rajouterais juste un commentaire, c'est que ce retour du religieux, c'est pas qu'au Québec qui est observé, c'est dans tous les pays occidentaux qu'on observe ce retour de religion. Alors, des pouvoirs religieux qui veulent reprendre un espace dans des sociétés qui s'étaient sécularisées.
Question à qui voudra bien répondre, il peut avoir peut-être plus qu'une réponse. On est dans un contexte où on a une pénurie d'enseignantes, où c'est pas facile de recruter non plus des éducateurs, des éducatrices dans les CPE. En interdisant tout signe religieux, on va se priver d'un certain nombre de personnel, mais il y a beaucoup l'argument que l'on entend, c'est le cursus scolaire qui doit être laïque, ce l'est, que la personne croit en Jésus, porte un foulard, porte un turban, qu'est-ce que ça change dans les faits?
Nadia, peux-tu répondre, Nadia?
Peut-être aller au lutin, une colonne qui okay. cache.
Okay.
C'est drôle, c'est...
Premièrement, pour le cursus scolaire, pour qu'il soit vraiment laïque, nous, on demande l'abolition du volet culture religieuse, du cours d'éthique et de culture religieuse. Parce que tant que ce volet est dans le cours, on ne penserait pas, donc, que le cursus soit complètement laïque. Écoutez, c'est ce qu'on transmet aux enfants qui est plus important. Le nombre d'enseignants, mais c'est un autre problème. Là, ici, en tout cas, il faut séparer les dossiers aussi. Là, ce qui est important, c'est d'assurer la liberté de conscience des enfants.
Mais qu'est-ce que ça change de fait qu'une enseignante, par exemple, porte un foulard alors qu'elle enseigne quelque chose
Ça change beaucoup, par exemple, pour les petites filles musulmanes. Parce que j'ai l'impression qu'on ne se met pas à la place des autres. On se dit, nous, c'est pas grave, ça ne nous fait pas grand-chose. Mais on explique, je ne sais pas comment, une petite fille qui subirait des pressions à la maison pour porter le voile. Et comment elle pourrait se confier à son enseignante si à l'école, dans les cours d'éthique et culture religieuse, déjà, on dit que dans l'islam, le symbole de l'islam, c'est le voile. Comment elle peut se confier à son enseignant qui devrait être une intervenante de première ligne, en fait. Si celle-là affiche une préférence pour le voile. Et donc, oui, ça a un impact, c'est certain. Écoutez, je sais, vous savez, Lucky Luke, il avait une cigarette. On lui a enlevé la cigarette, on a remplacé la cigarette par une paille, parce qu'on trouvait que ça influençait, n'est-ce pas, ça donnait un mauvais exemple aux enfants. Écoutez, si on enlève la cigarette de Lucky Luke, c'est bien qu'on montre, c'est bien que la preuve qu'un affichage a une signification. Alors, ce qui est important, c'est ça, il ne suffit pas d'avoir des enseignants, on veut surtout avoir des enseignants qui transmettent les valeurs de l'école. Et donc, c'est ça, les valeurs éducatives et de la société.
Ouais. Peut-être un peu pour répondre à votre question. La question sous-entend que, par exemple, les enseignants qui porteraient un signe religieux refuseraient de l'enlever pour continuer à enseigner. Il n'y a rien qui prouve ça. Je veux dire, si tu veux enseigner, c'est ça ta profession, mais ton signe religieux est plus important que ta profession, tu as un problème. C'est un gros problème. Et si c'est pas grave, un signe religieux devant la classe, imaginez-vous, il y a toutes sortes de croyances dans la classe. Je reprends mon exemple, j'arrive, moi, Dieu n'existe pas. Je vois la jeune fille ou le jeune garçon qui arrive à la maison des pratiquants catholiques. « Hey, papa, le professeur dit que Dieu n'existe pas, c'est-tu vrai? » Imagine le débat. Moi, mes enfants, je les ai élevés en dehors de la religion. Ils étaient gardés par une famille religieuse. Ma fille, qui était jeune, ostinait la gardienne en disant que Dieu n'existait pas. C'est pas non significatif un signe, OK? C'est un peu une preuve par l'absurde que je voulais démontrer, parce que tout le monde parle du voile ou du... Mais Dieu, il y a aussi du monde qui sont athées. Ils auraient le droit. Il n'y a personne qui pourrait m'empêcher, selon cette ligne de pensée-là, de me présenter devant la classe avec un chandail. Dieu n'existe pas. Je pense que ça ne tient pas à route. La neutralité est importante pour l'harmonie de la classe dans le travail éducatif qu'on a à faire. Puis moi, je pense que les femmes qui ont... ou les hommes qui portent des signes religieux, avec l'adoption de la loi, il n'y a rien qui dit qu'ils vont refuser de continuer à faire leur travail à cause de cette loi-là. Fait que moi, je pense que c'est un coup de bas.
Je rajouterais encore pour conclusion sur cette question, c'est que nous, on fait le pari, en fait, que la grande majorité des enseignants et des enseignantes, leur mission première, c'est pas de faire de l'annonce de leur religion, c'est d'enseigner. Je pense que la grande majorité va effectivement respecter la loi. D'autre part, on ne pense pas à celles qui sont obligées de le porter. Parce qu'on dit souvent, c'est un choix, mais on sait qu'il y en a qui s'est imposé. Donc, cette loi va offrir pour certaines un espace de liberté qu'elles n'auraient pas eu sans ça. Alors, mais nous, on fait vraiment le pari que la grande majorité des enseignants et des enseignantes vont faire le choix de protéger leur mission auprès des enfants.
Je ne veux pas accaparer tout le temps, mais juste un point là-dessus. Je pense vous avoir entendu dire, je ne sais plus quel intervenant l'a dit, que parce qu'évidemment, là, ceux qui ont... il y a comme un droit acquis là, pour certaines personnes dans le projet de loi. J'ai compris que vous voudriez avoir une clause pour que des parents, par exemple, dont l'enseignante voilée, pour reprendre cet exemple-là, a le droit de conserver son foulard, que les parents et les enfants puissent avoir un recours par lequel ils pourraient retirer leur enfant de la classe. Vous aimeriez que ça se soit ajouté au projet de loi?
C'est pas retirer l'enfant de la classe, c'est d'avoir accès à un enseignant qui respecte l'obligation de neutralité, parce que l'enfant a besoin d'être scolarisé. Alors, effectivement, si l'enseignant a des droits, l'enfant et ses parents l'ont aussi, le droit de la liberté de conscience. La loi, c'est ce que la loi affirme. Donc, il faut un mécanisme simple. Il ne faut pas que les parents soient obligés d'aller recourir aux tribunaux pour avoir droit à un enseignement neutre tel que la loi le prévoit. Donc, nous, on aimerait que ce soit explicite dans la loi.
Oh, yeah, I have some English questions. Sarah Levitt from CBC. First, just an obvious one because there wasn't any English. Why is it important to have secularism in Quebec? Any of you can answer. Maybe at the podium?
Oui, oui, on va demander à M. David Rand de répondre. C'est lui qui parle de l'anglais.
Why is it important to have secularism in Quebec? The question is a bit
yes.
Wide. Well, secularism is important for all societies. Quebec is in the avant-garde of of all countries in everywhere in North America, in that the population is much more secular and in favor of secularism than in other parts of North America. And this law is simply a natural progression of what's been going on for decades in Quebec with the Quiet Revolution, half a century ago, of secularizing the schools, secularizing government. It's a natural progression.
And so what is the reaction to this bill?
What is the reaction to this bill? The reaction of the population is enthusiasm. The secular organizations are very pleased with it. We all have our criticisms, constructive criticisms. It's an incomplete law. It doesn't go far enough in some ways, but it's an excellent start. It bans religious symbols for at least those public servants who are in positions of authority, which is excellent. It should do it for the entire public service, but it's a good start. And it contains a very clear definition of what secularism is, and would put that declaration into the Quebec Charter of Rights and Freedoms, which is probably the most important thing in this law, because it says the Quebec state is secular, and it defines what that means. And that means that in future, it's going to greatly facilitate future secularization measures, things that this law doesn't do completely, they can be completed by referring to this principle in the Charter of Rights and Freedoms.
This is the fourth attempt in about a decade from a government in Quebec to have a law passed on this issue. Is the Coalition Avenir Québec in the best position to actually see this law passed and go into effect?
Yes.
Well, actually, I would consider it only the second major attempt, the first being by the PQ back in 2013-2014. I don't think the others compare to this. Certainly the law which the Liberal Party tried to pass was in no comparison whatsoever. It wasn't even secular. But the CAQ is in an excellent position compared to others in the past. That is, it's a majority government with the support of the population. They have acted with determination, and they've declared their intention to use the non-withstanding clause if necessary, and that underlines their determination, and that the intention to do that is important. It's part of the Canadian Constitution, so it's perfectly constitutional to use the notwithstanding clause, in spite of all the alarmist declarations of people who think that this would be horrible to use it. If they need to use it, then they should use it, because the opposition to secularism is ferocious and vicious, and the government will have to use all the determination it can draw on, and the support of the population and the support of organizations such as this to help it get this law passed.
There's some criticism from the other side of the argument, that those against this bill, that the people most deeply affected by this bill, so Muslims, Sikh, even Jewish people, that they're not properly represented in these hearings. Do you worry about the equality of those able to speak at these hearings?
No, I believe that people opposed to the law are at least as many groups opposing the law who are represented in the hearings as those who were for. I haven't actually done the calculation, but there are many opponents of Bill 21 who are going to be there, so they're represented. I don't see a problem.
And one last question. The bill will inevitably affect people from a visible minority. Do you worry about the image that this group gives just because the majority are not from a visible minority and they're presenting in favor of the bill?
I don't know. Who is visible and who is missing? I mean, can you tell? I don't see the problem.
I mean, in the fact that the majority of you are white. I'm speaking not as myself. I'm speaking about the opponents who are inevitably going to bring this up when I show this in a report. They'll inevitably bring up the fact that the minorities aren't represented at this panel.
I think one major point, this law has absolutely nothing to do with race. And the idea that it does is a diversion which is used by enemies of secularism to basically distract from the point at hand. This is about religion and how to manage religious diversity and how to keep religion from interfering with the state. And I'd like to make one final point.
Monsieur, là, moi je porte en ce moment un signe ostentatoire anti-religieux, c'est un t-shirt athée, mais que je ne porterai pas au travail si je travaillais dans la fonction publique. Et on demande la même chose aux croyants, de ne pas s'afficher comme ça. On peut le faire ici, c'est pertinent, mais pas au travail dans la fonction publique.
Voilà.
Merci, David.
For your information, there's people from more not like Mohan who can speak in English about where he comes from and why he's in favor of the laïcité.
Juste quelques précisions et puis je reviendrai à la question que vous avez posée au sujet des signes visibles dans les écoles. En particulier, ça ferait une pénurie de main-d'œuvre. Je suis de ceux qui disent qu'il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre au Québec, il y a profusion d'emplois. Dans les écoles en particulier, il y a eu tellement d'enfants qui sont venus de l'immigration qu'effectivement, il a fallu ouvrir les portes pour du recrutement nouveau. Effectivement, la disponibilité de la main-d'œuvre a été beaucoup plus celle de l'immigration. Et la problématique s'est posée dès le début. Est-ce que le voile en particulier, et je me permets de le dire, je suis musulman, est un signe politique ou est-ce que c'est un signe religieux? La question, elle est là. Parce que si c'est un signe politique, il n'a rien à faire dans les écoles ni dans les administrations, parce qu'il faudrait accepter tous les signes politiques du PQ, du PLQ, de Québec solidaire et ainsi de suite. Si c'est un signe religieux, on a commencé avec la déconfessionnalisation au Québec, eh bien, il faudrait fermer la porte à toute nouvelle confession qui rentrerait à l'école par le vêtement. Et c'est le cas, malheureusement. C'est une intrusion au Québec, comme partout ailleurs dans le monde. L'intrusion du voile au nom de l'islam est quelque chose que tout le monde rejette, mais elle est là. C'est un fait évident, c'est un fléau. Il faudrait qu'on arrête de considérer que c'est un vêtement musulman. C'est un vêtement religieux. C'est rien de plus qu'un vêtement politique. Voilà ce que je voulais ajouter. Et de l'autre côté, il n'y aura pas de problème pour les personnes qui portent le voile en particulier. Je n'ai pas vu de juifs porter la kippa à l'école, personnellement. Je n'ai pas vu de chrétiens porter une croix ostentatoire ou un hindou ou un sikh porter leur chose. Je n'ai pas vu ça. Une chose est certaine, c'est qu'il y a du monde qui peut occuper les emplois qui sont là. Et puis, il y a quelque chose en islam qui est là. Si c'est des vrais musulmans, il faudrait qu'ils le fassent, qu'ils nous le montrent. Il y a un verset du Coran qui dit « Dieu ne changera pas ce qui est dans un peuple tant que l'individu n'a pas changé. » Alors, pour une fois, que les concessions viennent de ces extrémistes qui imposent leurs lois au détriment des lois du pays. Merci. Voilà.
Mesdames, Messieurs les journalistes, alors je vais dire merci beaucoup à tous ceux qui sont venus, toutes celles qui sont venues. Je vous laisse parler avec les gens qui sont dans la salle, il y en a qui sont disponibles pour faire des entrevues de personne à personne. Alors merci et bonne fin de journée.